Florent Guignard.
Deuxième et avant-dernier jour du forum sur la coopération sino-africaine qui se tient depuis hier à Dakar. Au Sénégal, après 20 ans de présence chinoise affirmée en Afrique, Pékin est devenu le premier partenaire commercial du continent. Mais on sent poindre depuis quelques jours une certaine désaffection. Alors on va en parler avec Gilles Yabi, notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique et fondateur du groupe de réflexion Wati qui est basé à Dakar. Alors un mot d'abord, s'il vous plaît, sur l'absence physique de Xi Jinping, le président chinois, à ce sommet. Il interviendra quand même à distance par visioconférence. Officiellement, c'est à cause du Covid. Est-ce que c'est seulement anecdotique, cette absence physique?
C'est peut-être pas anecdotique, mais il faut souligner que le président chinois ne se déplace plus quand même depuis un moment et il n'a pas participé non plus à d'autres rendez-vous internationaux importants. Donc, on ne peut pas nécessairement... attribuer cela à une forme de désaffection ou à une négligence de la relation entre la Chine et l'Afrique. C'est vrai qu'au départ, ce forum est davantage un forum de chefs d'État et de gouvernement, donc à un niveau très élevé. Et finalement, cette fois-ci, il a été décidé de faire un forum avec essentiellement une réunion ministérielle. Donc les présidents, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas présents, évidemment, à part le président sénégalais qui accueille cette réunion ministérielle.
Alors, 20 ans de présence chinoise en Afrique, est-ce que les promesses de la Chine ont été tenues?
Alors, c'est difficile de répondre à la question de manière globale, sachant que déjà, on ne peut pas parler de l'Afrique comme étant un bloc. On a des pays très différents qui ont aussi des niveaux de coopération différents avec la puissance chinoise. Les 20 ans, c'est aussi 20 ans pendant lesquels la Chine a continué à sa propre progression comme puissance économique, puissance technologique, etc. Et donc, il est très clair qu'une puissance comme la Chine, lorsqu'elle intervient, lorsqu'elle coopère, il y a des effets. Il y a des effets qui sont bénéfiques, notamment en termes d'infrastructures. Sur le continent. Dans beaucoup de pays, la Chine a continué à investir dans les infrastructures. Alors bien sûr, il y en a
qui ne sont pas achevées.
Oui, tout à fait. C'est toujours le cas. Il y en a qui ne sont pas achevées. Il y a le fait qu'il n'y a pas nécessairement de transfert de technologie. Pour moi, c'est l'élément le plus important, le plus critique. C'est le fait que pour les pays africains, de devoir eux-mêmes négocier davantage dans leur propre intérêt, et notamment le fait que l'investissement en infrastructure s'accompagne du transfert de savoir-faire, de connaissances, finalement de faire ce que la Chine a fait pendant longtemps pour développer ses propres compétences dans différents secteurs. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on ne peut pas dire évidemment que ces infrastructures ne soient pas essentielles pour le continent. Et je mettrai l'accent aussi sur les infrastructures qui sont autour de la connectivité, donc tout ce qui est technologique. Il est très clair que la Chine aujourd'hui est extrêmement présente dans ce secteur de développement des télécommunications, notamment avec Huawei qui est évidemment un très grand fournisseur aujourd'hui d'équipements de connectivité sur le continent.
Mais cette coopération, elle sert davantage la Chine ou l'Afrique? Certains disent que finalement Pékin reproduit le modèle de domination qui dicte les relations Nord-Sud depuis des siècles.
À nouveau, il faut sans doute déjà faire une distinction entre des pays qui sont les plus importants pour la Chine en Afrique en termes d'accès aux ressources, mais aussi d'accès au marché, et donc différencier les situations. Mais si on doit faire une analyse plus générale, je crois que la principale question, c'est celle effectivement de la préservation des intérêts africains en termes de notamment de d'apport de savoir-faire, de manière à ce que la dépendance elle-même se réduise au fil du temps. La question de l'emploi, puisqu'on a des investissements chinois qui s'accompagnent aussi de main-d'œuvre chinoise. Donc il y a la question de la transparence. C'est très clair que on est très difficile en fait de pouvoir apprécier justement l'impact des investissements et des échanges avec la Chine, parce que il n'y a pas beaucoup d'accès aux données pour pouvoir juger, par exemple, des niveaux d'endettement effectifs et des risques qui sont accompagnés et qui s'accompagnent, disons, de ces investissements. Donc, il y a un vrai problème de transparence et côté de la société civile africaine, c'est très clair qu'il y a une demande aujourd'hui de davantage de transparence dans les relations, qui sont des relations d'État à État, entre la Chine et les Africains.
Est-ce que l'endettement des pays africains à l'égard de la Chine devient un problème majeur?
Je crois que ça devient un problème majeur dans certains pays. À nouveau, sur l'endettement aussi, il y a une très très grande variété de situations. On ne peut pas avoir de jugement global sur l'endettement des pays africains. Il y en a qui sont peu endettés, très peu endettés lorsqu'on compare à des niveaux d'endettement, même notamment de pays européens ou de pays occidentaux de manière générale, et il y en a qui sont très endettés. On a des situations en Afrique australe et en Afrique de l'Est où effectivement l'endettement de la Chine, il est à l'égard de la Chine, est très important, et finalement il y a le risque que des infrastructures, des actifs finalement soient saisis d'une certaine manière par la Chine lorsque le pays n'arrive plus à rembourser. La question de la transparence, c'est pour ça qu'elle est importante. Donc, s'il n'y a pas de transparence, on découvre à un moment donné le niveau d'endettement, et à ce moment-là, il est d'une certaine mesure trop tard pour pouvoir réagir et pouvoir éviter cette fois-ci une très forte dépendance, quasiment une dépendance totale à l'égard de la Chine dans toutes les négociations qu'il peut y avoir, notamment sur l'accès aux ressources naturelles. Mais je voudrais vraiment rappeler, lorsqu'on parle des 20 ans de coopération, des 30 ans de coopération avec la Chine, de toute façon, la même logique, hein, des intérêts des États, c'est la même également qui prévalait pour les rapports avec les États-Unis ou avec la France. Il faut que les pays africains s'organisent pour défendre leurs propres intérêts, notamment sur les questions stratégiques. Et c'est clair que lorsque vous êtes face à face, petit pays face à la Chine, le rapport de négociation, le rapport de force, il est extrêmement déséquilibré.
Merci beaucoup, Gilles Liabi, d'avoir répondu aux questions de RFI Midi, fondateur du groupe de réflexion Wati.